C'est pas un simple résumé d'un art qui se résumerait à de la décoration, par exemple. Alors parfois, les gens, c'est même parfois drôle, confondent ça avec le tai chi aussi, qui n'a rien à voir, hein, puisque là, on est plus dans une discipline d'art martial. Mais pour reprendre le terme d'art, c'est un art chinois qui a pour objectif, en fait, d'harmoniser les énergies dans un lieu de vie. Ça peut être aussi un lieu de travail, pas seulement un lieu d'habitation. On parle beaucoup d'énergie, hein, puisque ça va être la gestion de l'énergie, l'étude de l'énergie de l'environnement d'un lieu d'habitation. Alors quand on parle d'environnement, c'est l'environnement proche. Ça peut être, voilà, est-ce que j'habite sur une montagne? Est-ce que j'habite plutôt dans un lieu, un trou? Est-ce que j'ai à côté de moi un cimetière? Est-ce que j'ai à côté de moi plutôt un quartier vivant? Déjà, on va partir de cette analyse-là, l'analyse de l'environnement lui-même. Et ensuite, on va commencer à rétrécir cette analyse en allant regarder un petit peu ce qui se passe dans le lieu, l'habitation en elle-même. Donc, c'est-à-dire l'habitation, c'est la façade de l'habitation. Est-ce que ma façade est très carrée? Est-ce que mon jardin aussi, comment est mon jardin? Comment j'accède à mon habitation? Est-ce que j'ai déjà des obstacles pour arriver jusqu'à mon habitation? C'est déjà ça aussi qu'on va commencer à analyser.
Sur le plan externe, par exemple, les points d'eau souterrains, est-ce que c'est important ça aussi dans l'analyse ?
Oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est, alors, on fait appel aussi à la géobiologie. Donc l'analyse des sols, c'est important dans le sens, voilà, comme vous disiez, c'est justement si on a un cours d'eau qui va passer sous notre habitation, forcément il y aura un impact sur le lieu et automatiquement sur ses habitants. Ça peut créer effectivement des problèmes de santé, jusqu'à des problèmes assez importants, et pas que de santé non plus. Hein. Donc là, l'environnement va vraiment impacter sur les personnes, et c'est tout, le feng shui, c'est ça. Justement, ça résume, c'est vraiment l'impact qu'a l'environnement sur l'habitation et donc sur les habitants. Donc l'idée, ça va être d'harmoniser le lieu de vie pour que notre propre vie soit en harmonie aussi.
Tout ce qui est pylône aussi, par exemple, ça aussi, vous le constatez, il faut peut-être éviter ce type, bon, forcément, on ne peut pas les démonter, mais comment neutraliser, par exemple, des ondes qui pourraient provenir de telles installations?
Oui, effectivement, l'impact des... Alors là, on est sur des énergies un peu électriques, hein, donc on va avoir un champ magnétique qui va être assez important. Si on peut éviter d'habiter à côté d'un pylône électrique, il vaut mieux, hein, parce que là, c'est quand même l'idéal. Après, effectivement, si vraiment il n'y a pas d'autres possibilités, il va falloir voir à essayer de couper un peu cette énergie qui nous vient directement dessus.
Chronologiquement, on va un peu vous présenter, car le feng shui, comme on le disait en introduction, ce n'est pas de la fantaisie, car il y a des diplômes valorisants et attestants cette pratique. Alors vous, votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené au feng shui?
Alors moi, en fait, c'est plutôt le feng shui qui est venu à moi. Hein, voilà. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel. Un jour, à la bibliothèque, j'ai mis ma main sur un livre qui était Ma maison feng shui, écrit par Laurence Dujardin. Et j'ai fait connaissance donc avec ce qu'était le feng shui. Ça m'a tout de suite interpellée, cette histoire d'énergie, moi ça m'a parlé, et j'ai voulu mettre en pratique tout de suite chez moi les conseils qui m'étaient apportés dans ce livre. Or j'ai vu que rapidement, le simple fait de lire des livres est un moment où c'est un petit peu insuffisant. Le simple fait de se tromper, par exemple, dans avec l'outil qui s'appelle le Pakwa, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Si on le place au mauvais endroit, là, on va avoir une mauvaise interprétation. On va se tromper déjà dans son analyse. Et c'est vrai que ça, c'est insuffisant si on vous pousse un petit peu loin. Les livres, c'est très bien et c'est une très bonne approche, mais selon ce qu'on veut en faire, ça devient insuffisant. Donc j'ai eu un petit peu le culot de m'adresser directement à Laurence Dujardin pour savoir si elle serait prête à me former. Et c'était justement une interrogation qu'elle avait à ce moment-là. Donc j'ai finalement répondu à son interrogation. Elle, justement, souhaitait peut-être partager ses connaissances sur le Feng Shui. Donc j'ai pu me faire former tout au long d'une année par ses soins, hein, voilà. Et donc j'ai eu mon diplôme l'année dernière.
Quand on lit le dos de votre carte de visite, vous voulez débloquer certaines situations, qu'elles soient familiales, amoureuses, professionnelles et plein d'autres champs également. Quel est le rapport entre le Feng Shui qui est purement, si j'ai bien compris, une sorte de positionnement ou de l'environnement ou des meubles aussi et des situations familiales, amoureuses? Est-ce qu'il y a un impact justement? Est-ce que le Feng Shui impacte ces situations?
En fait, ça impacte même complètement, hein, puisque l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure, de commencer à regarder ce qui se passait autour de chez nous, en fait, on va de plus en plus affiner un diagnostic. C'est-à-dire qu'après, quand on va utiliser le Pakwa, notamment, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, en fait, le Pakwa, il est divisé en 8 carrés, hein, si on peut expliquer ça comme ça. C'est en fait 8 éléments de notre vie qui nous constitue, ce qui est le plus important pour nous. Donc ça va toucher le domaine effectivement de la santé, de notre réputation, de l'argent, de l'amour, de la carrière, des projets, les enfants, les connaissances. Et donc tout cela, c'est 8 domaines, c'est bien sûr 8 domaines qui impactent notre maison, mais qui du coup nous impactent forcément nous. Et le lien, le Feng Shui sert à faire le lien entre cela. Donc on va, lors d'un diagnostic, voir qu'il peut y avoir certaines zones qui sont bloquées, des zones qui sont en excès, des zones qui sont en manque. Et du coup, tout notre travail après d'expertise, ça va être de faire le lien dans tout ça et de réharmoniser ces énergies-là. Avant d'en arriver aux objets, c'est déjà de voir que ma pièce, où est-ce que je vais la situer. Je vais également, on sert aussi beaucoup des orientations, hein, le sud, le nord, l'ouest, l'est, pour pouvoir aussi voir quelle influence ont ces orientations sur notre pièce et sur ce qu'on veut en faire aussi.
Est-ce que c'est plutôt les pièces à vivre qui sont privilégiées? C'est-à-dire, est-ce qu'une cuisine peut se passer de Feng Shui ou c'est aussi important et c'est un ensemble?
Un bon diagnostic, c'est normalement une analyse globale. Donc, on peut travailler qu'une seule pièce. Je le propose parce que c'est une demande qui m'a été faite. Mais ça, je vais plutôt, moi, l'assimiler à un feng shui un peu ludique, un peu... on est plus sur de la déco. Après, faire un vrai travail en profondeur, il faut vraiment tout analyser. C'est comme si on nous analysait juste une partie de notre corps. Donc, autant dire que c'est pas suffisant. Je conseille de faire surtout un travail sur son entrée, qui représente la carrière, et sur sa réputation. On va déjà commencer par ce travail-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma méthode. Après, effectivement, il faudra travailler l'ensemble des pièces.
Quels sont vos tarifs ?
Alors, en général, c'est assez secret, hein, les tarifs dans le Feng Shui. Alors moi, je suis assez à l'aise avec ça. J'ai fait le choix que ce soit un Feng Shui qui soit abordable par tous. C'est-à-dire que normalement, les tarifs en Feng Shui, c'est souvent 10 euros du mètre carré. On parle en termes de mètre carré. J'ai fait le choix, moi, de faire du moitié prix. Parce que ça reste quand même, malgré tout, encore un petit peu cher, hein, faut reconnaître. Mais on va plutôt parler en termes d'investissement sur du long terme. Hein. C'est-à-dire que sur le coup, ça peut sembler un petit peu cher. Mais si on regarde quelques séances chez un ostéopathe ou une quelconque thérapie, on a vite pour 60 euros de l'heure. Et là, finalement, ramener sur du long terme. Là, on fait vraiment du travail en profondeur et sur du long terme et sur tous les champs qui touchent notre vie. Donc c'est quand même pas rien et c'est un investissement qui finalement se fait une fois, mais il n'y a pas normalement à y revenir parce qu'après quand on a compris le principe du Feng Shui, pour les personnes qui sont amenées à redéménager ou elles vont automatiquement l'appliquer, elles sauront faire.
On peut vous retrouver, comment vous contacter?
Alors, soit par téléphone, soit par mail, soit par ma page Facebook. Je propose aux auditeurs de vous y rendre. C'est Feng Shui Happy Home. Et puis, sur mon site également, c'est fengshuihappyhomegap.com.
Dernière question, mais un peu plus fantaisiste, on va dire. Vous parliez un peu de cet amalgame entre le Feng Shui et le Tai Chi. Peut-on faire du Tai Chi dans une pièce Feng Shui ?
Alors là, c'est l'idéal. Exactement, exactement.
Et là, on a 10 sur 10 pour le mental et la santé. Merci, Katia. À bientôt.
Merci, à bientôt.